Alors, quelques remarques et quelques reprises aussi. D'abord, le but de ce cours, c'est aussi, c'est pas le seul but, mais aussi de vous donner, notamment en première année, un peu une entrée dans une culture théologique, dans un monde théologique. Donc, d'où le dossier, d'où beaucoup de références à l'histoire, pour que vous puissiez un peu vous repérer dans cet univers. Et c'est vrai, ici, un peu dans la maison, l'entrée par l'histoire est toujours décisive. Parce que, comme on disait autrefois, magistra vitae, historia, l'histoire nous apprend comment vivre, voilà. Donc je voulais un peu rappeler ça, parce qu'on peut peut-être un peu déconcerté par moment, par tous les détours, ou ce qu'on peut éprouver comme un détour à travers l'histoire. Voilà, donc ça c'était un premier point. Alors, on est dans la première partie, la foi chrétienne c'est quoi ? Et j'ai commencé hier avec le troisième chapitre, différentes approches de l'identité chrétienne, donc un parcours vraiment historique, mais avec une question tout à fait centrale qui va nous accompagner aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre les quatre premières désignations de l'identité chrétienne, la voie ou l'accès, l'évangile, mystère et révélation d'un côté et la doctrine de l'autre côté. Quel est le lien, le rapport précis entre les deux? Et vous avez déjà un peu compris que ce rapport n'est pas si simple à déterminer et qu'il a beaucoup varié à travers l'histoire, justement. Il a beaucoup varié à travers l'histoire. Et même, je dirais, quand on passe du Concile Vatican I au Concile Vatican II, on voit qu'il y a là une question de fond. Pour Vatican II, la révélation, c'est essentiellement une révélation doctrinale et morale, les décrets et les vérités que Dieu révèle. Et à Vatican II, on est davantage dans un domaine communicationnel, proche du kérigme, mais la question doctrinale n'est évidemment pas exclue. Vous le voyez tout de suite dans le prologue, qui est d'ordre kérigmatique, et en même temps, on nous dit, c'est pour cela, dans les traces des conciles de Trente et de Vatican I, ce concile tente de dire la doctrine sur la révélation et sur sa transmission. Donc il y a là une question de fond qu'il faut traiter, que nous allons maintenant aborder dans cette partie, parce que selon l'accent que vous posez ici, vous insistez plutôt sur l'enseignement ou vous insistez plutôt, je dirais, sur la structure kérigmatique de la foi, vous avez aussi d'autres modèles catéchétiques qui en sortent, évidemment. Donc, il faut en traiter. Alors, ça, c'était donc un point que je voulais un tout petit peu reprendre. Donc, troisième chapitre, et j'ai d'abord défini les termes, les deux termes, à partir de l'ouvrage de Walter Kasper, « Dogme et évangile ». Parfois, elle dit aussi « dogme et kérigme », parce que c'est la même chose. Donc vous avez la définition du dogme, et j'espère que vous avez bien enregistré que ce terme reçoit sa signification actuelle très récemment, donc au XVIIIe siècle seulement. Christmann, Philippe Néry Christmann, et ensuite dans De Filius, vous avez donc la précision dans le chapitre 3, le paragraphe 4, je ne vais pas y revenir. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un peu la tendance de reprojeter ce terme, évidemment, sur l'ensemble de l'histoire du christianisme. Et de l'autre côté, vous avez le kérigme, donc je ne vais pas y revenir, parce qu'on a déjà parlé beaucoup de cela. Alors, j'ai introduit la dernière fois une distinction que j'espère clarifiante, entre, d'un côté, le contenu de la tradition chrétienne, le contenu de la foi, et la forme. Et la forme. Et nous allons voir dans la deuxième, dans le numéro 2, identité comme tradition, que précisément les deux sont intimement liés. Intimement liés. Nous allons le voir. Alors, le contenu et la forme. Alors, prenons d'abord le contenu. Qu'est-ce que c'est le contenu de la foi? C'est-à-dire, si vous prenez un des tout premiers textes où on le trouve avec précision, l'Épître aux Romains, chapitre 10, qui nous accompagne depuis le début, voyez, si de ton cœur, si de ta bouche tu proclames, le contenu c'est Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Contenu central. Et autour de cela, évidemment, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé. Vous voyez, vous avez les trois affirmations. Tu seras sauvé. Que vous trouvez, évidemment, dans la suite, dans le Nouveau Testament, sous d'autres formes. Ce qui deviendra la confession baptismale. La confession baptismale. Et à partir de la confession baptismale, on va aller plus tard, ça relève plutôt des cours de christologie, on va arriver au symbole de Nicée et de Constantinople, ou le symbole des douze, comme on dit aussi, le symbole des apôtres, qui est une autre formulation. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle Athanasianum, n'est-ce pas? C'est encore une autre manière dans l'Église latine de dire toujours cette même foi. Donc, à partir d'un noyau, vous voyez, il y a des excroissances, si je puis dire, des explicitations. Il faut bien dire des explicitations, parce que le noyau du contenu est le même. C'est-à-dire, c'est la figure du Christ, son identité, et son identité, c'est son lien avec son Père. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, c'est très très résumé, le mystère pascal. Et ça a un effet tout à fait décisif. Si tu crois cela, tu seras sauvé. Et voyez, donc, si tu crois cela, tu seras sauvé, il y a déjà impliqué ici l'Esprit-Saint, comme dit la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur et de le croire si ce n'est dans l'Esprit-Saint. » Voilà. Donc, l'Esprit-Saint comme le lieu du salut actuel, aujourd'hui. Et l'Église, évidemment, je crois ou nous croyons, est déjà impliquée ici. Donc, vous voyez, vous avez dans ce petit noyau central, dans cette cellule génératrice, pourrait-on dire, de tout, je suis sur le plan du contenu, vous avez déjà la foi trinitaire impliquée ici, qui sera explicitée au fur et à mesure que l'Église prend la mesure, l'intelligence de ce qu'elle croit. Et souvent, c'est d'ailleurs en opposition, c'est-à-dire en débat, avec des manières de comprendre cette cellule qui ne conviennent pas, finalement. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le contenu, si vous voulez. Le contenu de la règle de foi. Alors, la forme, maintenant. Qu'est-ce que c'est la forme? La forme, c'est que le kérigme, l'annonce, s'adresse à quelqu'un ou à des gens. Elle est relationnelle. C'est un processus relationnel, le processus kérigmatique. Donc ça, c'est la première chose, il y a une relation. Ça suppose un entendre et un parler. Et entre l'entendre et le parler, il y a le cœur. Vous voyez, c'est ce chemin que j'ai essayé de tracer sur un schéma. Voilà, ça c'est tout à fait fondamental, c'est une forme ça. Donc c'est pas uniquement énoncer correctement le contenu de la foi, mais comment et dans quelle situation voilà, la forme. Donc entendre et annoncer. Et il y a un troisième terme, interpréter. Parce que quand j'entends dans ma propre langue, et donc j'interprète et j'annonce en interprétant. Vous voyez, ça c'est la forme. Et ensuite fait partie de la forme, deuxièmement. que ce sont toujours des personnes qui écoutent et qui annoncent. Alors d'abord les 12, leurs successeurs, et nous avons vu hier cette magnifique formule chez Saint Irénée qui dit la forme, chacun pour lui-même et tous ensemble en le tout de l'Évangile. Vous vous rappelez de cette formule hier, chez Saint Irénée, le premier numéro, tout à fait au début, du « Contre les hérésies ». Ça, ça fait partie de la forme. Donc, pour interpréter, il faut toujours partir de ce point de vue. Et vous avez vu aussi dans le 5e concile, 553, où c'est magnifiquement énoncé cette règle certaine que lorsque les questions qui doivent être tranchées par les deux parties sont posées lors de discussions communes, la lumière de la vérité chasse les ténèbres du mensonge. Donc, aucun traditeur, si je puis dire, tradens, dit-on en latin, personne qui transmet ne peut transmettre tout seul. Donc, il y a la fraternité qui intervient ici, comme règle fondamentale. Tous les 12 et chacun. Et ensuite, les successeurs. Voilà la forme. Donc, la forme, c'est à la fois une forme relationnelle, écouter, annoncer, interpréter, et on ne le fait pas seul, c'est les 12 et chacun pour lui-même et les 12. Vous voyez ce qui deviendra plus tard le principe de collégialité, mais c'est déjà le principe synodal dans l'acte 15, dans ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Voilà ce qu'on peut appeler, si vous voulez, je dirais, la forme. Alors, si vous partez de ce point de départ, contenu et forme, on peut distinguer, et c'est là où on s'est arrêté hier, grosso modo, deux phases dans ces 20 siècles d'histoire du christianisme. Il y a une première phase où on a beaucoup insisté sur ce que j'appelle l'objectivation du kérigme. C'est-à-dire objectivation, c'est-à-dire on a beaucoup pris soin du contenu. Ça ne veut évidemment pas dire que la forme est absente, la forme kérigmatique. On l'a vu hier dans le texte d'Irénée. Et on l'a vu dans le texte, le magnifique texte du 5e concile, Constantinople II, qui regarde déjà sur les 4 conciles précédents et qui insiste beaucoup sur la communication et qui distingue d'ailleurs les 2 temps de la tradition, le temps proprement apostolique et ensuite ce qui relève de la succession. Donc, c'est dans cette première phase qu'on pousse l'objectivation. Et on pousse l'objectivation parce qu'il y a eu beaucoup de contestations. C'est le concept d'hérésie que j'ai expliqué hier. Et si vous regardez encore une fois le texte, donc nous sommes ici dans l'annexe 12, donc on va un peu regarder. Vous voyez, c'est à partir de la page 83. J'espère que vous vous repérez maintenant un peu dans votre dossier quand même depuis le début. Donc, page 83, oui, parfois on cherche un peu. 84, vous voyez, c'est 85, à la page 85, relativement au milieu. Donc, je reprends cette formule. Réunis, nous avons avant tout fait confession en résumant de garder la foi que notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu, a transmis à ses apôtres et par eux aux saintes églises. Première question. Phase, ça fait partie de la forme apostolique de la foi. Deuxième phase, et que ceux qui furent après eux, les saints-pères et les docteurs de l'Église, ont transmis au peuple qui leur était confié. Donc vous voyez, on est dans un processus kérigmatique de traduction, de transmission. Nous avons confessé que nous gardions, conservions et prêchions, donc jamais sans la prédication, aux saintes églises, cette confession de foi. Alors cette confession de foi, c'est la confession baptismale, vous voyez, qui vient de Paul et des autres, de la communauté primitive, j'en ai parlé au début, ce soir, voilà, que nous gardions cette confession de foi quand exposée plus largement, premier temps, exposée plus largement, voilà, ceux qui étaient réunis à Nicée, qui ont transmis cette sainte formule au symbole, de plus, ceux qui ont exposé les 150 pères rassemblés à Constantinople et qui ont adhéré à la même confession de foi et l'ont développé, exposé plus largement, développé et finalement défini. Et c'est là, quand le mot vient le terme défini, définir, il faut bien entendre, c'est fini. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est clôturé, vous voyez, formulé. Alors là, on peut, dans la perspective d'aujourd'hui, parler de dogme, défini. Quelque chose qui fait autorité. Mais évidemment, tout ce qui précède fait déjà autorité. Mais vous voyez, il y a ici un développement plus largement, développement et finalement défini. Alors, donc, on a de plus en plus insisté sur le contenu. Et j'ai terminé hier en disant, il y a eu quand même beaucoup de problèmes de violence intra-ecclésiale dans l'Église impériale. Au 4e, 5e et 6e siècle, autour de la confession de foi. Pourquoi ? Parce que la confession de foi devient en même temps règle, plus tard, du code justinien. C'est-à-dire, confesser la foi trinitaire telle que l'Église de Rome, de Constantinople, d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem, la Pentarchie, les cinq grands patriarcats confessent, devient en même temps une règle pour l'Empire chrétien. Et donc celui qui est hérétique est en même temps mis sur le banc de l'Empire. Donc vous voyez, ça explique un peu aussi, je dirais, les violences sous-jacentes à cette question de l'hérésie. Vous voyez, je me situe au niveau de la forme. Et du coup, vous avez l'émergence ici de positions déjà différentes et qui vont traverser l'histoire. Vous avez les sceptiques. Aujourd'hui, on dirait les pragmatiques. Oh, mais quoi, ça sert, n'est-ce pas, de se battre autour des formules, etc. C'est une affaire pour une élite, pour des intellectuels, etc. Et ce foutu catéchisme avec 2000 articles, etc. Ça sert à quoi? Voyez les sceptiques. Les sceptiques. Alors il faut dire, des grands étaient sceptiques pendant au moins une partie de leur carrière. Saint-Hilaire de Poitiers, dans sa première période, en disant attention, c'est pas parce qu'on a la bonne formule qu'on va entrer dans le ciel. Ça relève peut-être encore de d'autres choses, ultimement de la charité, de l'agapé. Et évidemment, c'est quelque chose qui se passe aussi dans le cœur. Donc, l'idée provoque le scepticisme par rapport à toute formule écrite. Alors ensuite, vous avez une deuxième catégorie, et c'est la majorité des évêques du Concile d'Éphèse. 431. Après, ce qu'on appelle le brigandage d'Éphèse. Vous voyez, pour utiliser déjà ce terme, ça vous montre la situation. Il y a des évêques qui se sont réunis, c'était des vrais brigands avant. Et je dirais qui ont tiré quelqu'un devant le tribunal, ils sont opposés au patriarche de Constantinople, donc un énorme problème. Et finalement, on arrive à 431, au vrai concile d'Éphèse, qui était aussi très difficile, très difficile. Voilà, et là, pour s'en sortir des violences et arriver à une conclusion fraternelle, qui a d'ailleurs a été acquise seulement après, entre le patriarche d'Alexandrie et le patriarche d'Antioche, qui étaient les deux patriarcats très opposés, on a dit « Nicée suffit ». Nicée suffit. Donc, comme on a pu dire à Vatican II dans les conflits, Vatican II, tout Vatican II, rien que Vatican II. Mais on va bien, on ne peut pas s'arrêter à ça. L'histoire continue, on va bien, aujourd'hui, depuis 431, les choses sont évoluées. Alors ensuite, vient la raison qui va intervenir, et c'est Léon le Grand, 451 qui pousse à ça avec justesse. C'est le concile de Chalcédoine. Voilà. L'insuffisance de la lettre du symbole de Nicée face à des conflits nouveaux, donc la légitimité d'un développement. Mais on va distinguer pour la première fois, si vous voulez, d'une manière nette, entre d'un côté le kérigme qui suffit au jour le jour, la prédication. Le dogme, c'est pas quelque chose qui se prêche. On prêche pas le dogme, on prêche l'évangile qu'on annonce. On commente les textes et on fait une initiation. Alors, le dogme est, si vous voulez, je dirais, la règle, le contrôle, mais qu'il faut par moment, quand il y a des contestations. Et là, la contestation porte sur l'unité de la personne du Christ. Vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Le dogme de Chalcédoine. Vrai homme et vrai Dieu. Et les deux, sans séparation, sans confusion, etc. Donc, on distingue ici pour la première fois entre ce qui est ordinaire et ce qui est extraordinaire. L'extraordinaire, il le faut par moment pour régler des situations de conflit. Et vous avez un dernier groupe dans tout ça, mais qui est très ancien, qui est déjà un peu chez Origène, on le trouve chez un grand théologien comme Grégoire de Nazianze. C'est-à-dire, au fond, l'idée que dans l'histoire, la révélation elle-même, elle évolue à travers notre intelligence. Et donc l'Église a eu toujours des problèmes avec ça. Elle a maintenu la distinction des deux temps. Le temps apostolique, tout est fixé dans le temps apostolique, c'est l'Écriture inspirée, et évidemment ceux qui portent cette Écriture. Et ensuite, on n'est plus dans une évolution de la révélation. Donc là, il y a un débat important. C'est la quatrième position. Alors, je ne vais plus revenir maintenant au contenu, mais j'espère vraiment que vous avez bien compris la distinction entre la forme ici et le contenu même. Voilà. C'est deux perspectives sur une même chose. On pourrait dire c'est le contenu et c'est le comment. Mais quand on répond à la question « la foi chrétienne, c'est quoi ?», il ne suffit pas de répondre simplement par des vérités catéchétiques. Encore faut-il les inscrire dans un processus de communication kérigmatique. Parce que là, les personnes interviennent, leur fraternité intervient, leur division et leur violence interviennent et produisent témoignage ou contre-témoignage. Alors, la deuxième phase. Donc, la première phase, au fond, elle est une phase d'objectivation de plus en plus grande et de développement. La deuxième phase, qui commence au XVe siècle et qui trouve son point culminant au XVIe siècle avec la Réforme, c'est au fond une, non pas du tout une négation chez quelqu'un comme chez Luther et Calvin, du dogme christologique, ou je dirais du dogme trinitaire, ou de la confession de Nicée-Constantinople. Mais c'est la réaffirmation de l'identité kérigmatique de la foi, et on va trouver ça, je dirais, je vous ai donné surtout un texte de Rudolf Bultmann dans quelques instants, on va le regarder. C'est l'annexe numéro 12. Donc d'abord, un très bref mot déjà, ici sur Martin Luther, vous avez les dates, et la réforme luthérienne, la date de la réforme, la date symbolique, le 31 octobre 1517, avec ce célèbre affichage de thèse à l'église de Wittenberg, en Allemagne, la partie est de l'Allemagne, et on va maintenant, évidemment, vers la mémorisation de 1517 en 2017. Ça s'approche, et il y a un texte de la commission œcuménique luthéro-catholique sur, on pourrait dire ça, la réconciliation des mémoires, parce qu'évidemment, on n'a pas tous un même point de vue. C'est un texte magnifique que je vous invite à charger sur Google, etc., et de le regarder un tout petit peu. Voilà, ou même beaucoup. Alors, il y a évidemment l'idée de réforme derrière. Qu'est-ce que c'est l'idée de réforme? Elle vient pas du XVIe siècle. L'idée de réforme remonte à la réforme grégorienne, vous voyez, au XIe siècle. Au XIe siècle, cette idée de réforme. C'est au fond l'expansion de la notion de conversion à l'ensemble de l'Église. La conversion ecclésiale, et Vatican II reprendra ça dans le décret sur l'œcuménisme, la reformatio. Il ne suffit pas, quand on entend l'évangile, de se réformer soi-même, de se convertir, mais c'est encore l'ensemble de l'Église qui est continuellement invitée à se réformer. Ecclesia semper reformanda. Donc ça, c'est depuis le XIe siècle, au fond, ce cri, si je puis dire, retentit dans la chrétienté. Et on arrive quand même au XIVe siècle, fin du XIVe, au début du XVe siècle, à une période absolument terrible que l'Église n'a jamais vue avant, ce qu'on appelait à l'époque l'exécrable Trinité. Qu'est-ce que c'est l'exécrable Trinité? Ça c'est la vox populi, que la chrétienté se paye trois papes en même temps. Trois papes en même temps. Et il fallait un concile pour s'en sortir. Le concile de Constance, voilà, au nord des Alpes, au bord du lac de Constance. On oublie ces choses-là. Alors, le pape qui a pris la fuite du concile, parce qu'il n'était pas content, s'appelait Jean XXIII. Et l'intelligence de Jean XXIII, parce qu'il était historien, c'est de rechoisir ce nom. Parce que plus personne, depuis, a osé de choisir ce magnifique nom pontifical, Jean. Il y en a eu 23. Le 23e a été démissionné. Finalement, il a signé lui-même. Et donc, le concile a relu un autre Martin V. Donc, pour vous dire quand même l'état de la chrétienté à l'époque. Et du coup, l'appel à la réforme vient de plus en plus ardent. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre Luther et la réforme luthérienne. Parce que comment réformer? Réformer à partir du centre même des Écritures. L'Écriture ne nourrit pas seulement, mais elle a aussi une fonction critique par rapport à nous. Vatican II, dans Dei Verbum, à la fin, dans le chapitre 6, va réaffirmer cette fonction critique aussi de l'Écriture. Et donc, au cœur de l'Écriture, il y a la Viva Vox Evangelii, je l'ai cité hier, chapitre 2 aussi de Dei Verbum, la voix vivante de l'Évangile. La voix vivante de l'Évangile. Et le Concile de Trente, je vous rappelle, dans son décret que nous avons déjà regardé, veut rétablir la pureté de l'Évangile. Vous comprenez maintenant. On est dans une logique de réforme à partir de l'Évangile. Mais il faut bien dire ici, et vous comprenez maintenant le terme, qu'au fond, Luther nous propose une autre conception de la forme du christianisme. Une autre conception de la forme du christianisme. Le débat œcuménique, c'est moins un débat sur tel ou tel point de doctrine, dans son centre, bien sûr, la doctrine de la justification, avec la déclaration d'Augsbourg en 99, donc quelques mois avant le jubilé, cet accord signé le 31 octobre, à Augsbourg, voilà, sur ce point doctrinal. Mais la question, c'est la forme, c'est-à-dire la parole de Dieu chez Luther, donc la voix, la viva vox evangelii, la voix vivante, c'est pas l'écriture, la parole de Dieu. Luther distingue bien entre le texte écrit et qui est désormais imprimé, on est au XVIe siècle, l'imprimerie fonctionne, donc le livre circule partout, il est traduit en allemand, et ensuite aussi en français, en anglais, etc. Vous avez des traductions nationales, un phénomène extraordinaire. Et du coup, quand vous lisez, vous n'écoutez pas nécessairement. Donc le problème, c'est du passage de la lecture à l'écoute. Et l'écoute vient de la prédication. Donc le prédicateur. Et le prédicateur ne peut prêcher que s'il est envoyé. Et l'écoute, c'est celle du cœur, celle de la conscience. Alors, je vous ai mis un texte tout à fait important ici. Vous avez la référence. 1522, donc 5 ans après cet acte symbolique. Comment pouvons-nous savoir, vous avez à la page 20 dans le polycopier, comment pouvons-nous savoir ce qu'est la parole de Dieu et ce qui est faux ou vrai? C'est vraiment la question, hein? Nous devons l'apprendre des docteurs du pape et des conciles, disent les papistes. Voilà. Donc, on nous appelait comme ça les papistes. Voilà. Eh bien, laisse-les décider et dire ce qu'ils veulent. Toi, tu ne peux fonder ta confiance, donc la confiance du cœur, la foi du cœur, la fiducia, la confiance, là-dessus, ni apaiser ainsi ta conscience. Il s'agit de ton cou et de ta vie. Si tu crois que tu seras sauvé. Dieu lui-même doit donc te dire jusque dans ton cœur, voilà, c'est cela la parole de Dieu. Sinon, rien n'est décidé. Tu dois être certain auprès de toi-même, tous les autres êtres humains étant ici exclus. Alors, voyez le ici, il ne faut pas l'oublier, si on ne veut pas, je dirais, faire trop vite un procès de tendance. Ce qui ne veut pas dire que la communauté est absente. Mais évidemment, ici, c'est la conscience. Et la conscience peut évidemment entrer ici en conflit, je dirais très radical, avec la communauté ecclésiale. Au fond, ce que dit Luther ici, c'est que il y a une différence entre consensus et vérité. Retenons cela. Et là, il y a quelque chose de juste qu'il faut entendre, et que le catholicisme a entendu aussi d'une autre manière. C'est-à-dire, il ne suffit pas que tout le monde soit d'accord pour que ce soit vrai. Ce qui est la limite de la règle du deuxième concile de Constance, n'est-ce pas? Il dit, le concile de Constance dit, si tout le monde, je dirais, débatte, finalement la vérité va se manifester. Et s'il y en a un qui dit dans sa conscience, je ne suis pas d'accord, il ne peut pas dire autrement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, il y a une tension qui émerge ici pour la première fois, que le Concile Vatican II, et en particulier Paul VI, ont très pris au sérieux, très pris au sérieux. D'où cette idée, il faut arriver quelque part à une unanimité morale, même si on ne peut pas tout bénir. Mais la conscience est quand même importante. Voilà, vous voyez, apparaît ici ce que j'appelle une nouvelle forme de, je dirais, de la figure de foi. Voilà. L'idée de réforme, une autre conception de la forme du christianisme qui insiste alors extrêmement fermement sur ce pôle de la conscience. Et Trent va appeler ça le jugement privé, il va s'opposer à ça. Mais quelque part, il y a les deux sont à articuler ici. Les deux sont à articuler. Alors, regardons un texte, parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. Cette grande figure, cette très grande figure, Rudolf Bultmann, donc, que je cite ici, un théologien luthérien, Marbourg, en Allemagne, qui a fait un livre sur Jésus, qui a beaucoup, beaucoup écrit, commentaires sur Saint Jean, etc., et qui a été beaucoup travaillé ici aussi en France, reçu aussi par le catholicisme. Et donc, lui, sa thèse, c'est l'inobjectivable événement kérigmatique. Donc, quelque chose dans la foi, et ça c'est très, très luthérien, est inobjectivable. Même si le contenu est correct, vous voyez, on est sur le plan de la forme. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas objectiver. La foi est un événement, finalement. C'est la notion d'événement. Et donc, je vous invite à regarder dans votre dossier, à la page 86, on ne va pas tout lire le texte, mais je vais quand même vous lire l'extrait et je vais conclure ce point. Et après, je vais vous proposer la solution, entre guillemets, que je propose maintenant. L'originalité de la foi chrétienne, donc la page 86, voyez, vous avez quelques poésies là qu'il cite, qu'il commente, auxquelles il s'oppose aussi. Et je prends les derniers paragraphes. L'originalité de la foi chrétienne est qu'elle parle d'un événement qui lui donne ce droit, qu'elle entend une parole qui exige d'elle qu'elle reconnaisse Dieu comme un vis-à-vis. Pour le christianisme, la foi en Dieu n'est pas une foi et une confiance générale en Dieu, mais la foi en une parole déterminée qui lui est annoncée. Voyez, le kérigme revient, l'épître aux Romains, annoncée. L'événement est Jésus-Christ, par lequel, comme il est dit dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé, et que le Nouveau Testament lui-même nomme la parole. Il est le Verbe. Cela signifie que dans ce qui est arrivé avec et par Christ, Dieu s'est manifesté à l'homme d'une manière décisive. Vatican II dit de manière ultime, définitive, décisive. De plus, cet événement fonde et légitime une prédication qui s'adresse à l'homme comme parole de Dieu, qui ne lui enseigne pas une nouvelle conception de Dieu. Voyez, à ce moment-là, on serait sur le contenu, voyez. Finalement, ce qui différencie le christianisme, c'est un contenu. Et voyez, à ce moment-là, vous comparez le contenu de l'islam, vous comparez le contenu du judaïsme, le contenu, le Dieu de l'islam, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus-Christ. Vous êtes au niveau d'une comparaison des croyances, mais vous n'êtes pas au niveau de l'événement même qui se présente quand on vous invite à croire. À croire. Voilà, de plus, un événement... De plus, cet événement fonde et légitime une prédication qui s'adresse à l'homme comme parole de Dieu, qui ne lui enseigne pas une nouvelle conception de Dieu, mais lui donne le droit de croire au Dieu auquel il voudrait croire. C'est justement pour cela qu'il est besoin de la parole. Si la parole de Dieu et le signe sont absents ou ne sont pas connus, il n'y a qu'à peine perdu. Il n'y a que peine perdue. Dieu en personne fut-il là. Car quand on est en dehors de la chrétienté, même si on croit très purement en un Dieu véridique, et si l'on l'adore, on ne sait pourtant pas de quel sentiment elle est animée, on ne peut s'attendre à aucun amour ni à aucun bien de sa part, et c'est pourquoi on demeure dans la colère et dans la damnation éternelle. Donc ça, c'est une citation de Luther. Donc, encore une fois, pour vous dire, ce n'est pas la conception de Dieu qui fait notre foi. Elle ne doit pas être absente, encore une fois. Mais c'est l'événement qui se produit, voilà, quand j'accède à la foi parce que j'ai réellement entendu Dieu s'adresser à moi. Alors, je conclue, si vous voulez, un peu ces deux mille ans, je dirais, de ce débat autour de l'articulation entre doctrine, dogme d'un côté et kérigme. L'histoire manifeste une difficulté fondamentale. Donc, je lis à la page 20 de mon polycopier. À savoir le problème d'une articulation correcte entre la forme kérigmatique de la révélation et son contenu dogmatique. J'ai mis « dogmatique » ici entre guillemets parce que c'est un terme récent. Le terme ancien, c'est « doctrine ». Et maintenant, la proposition entre italiques. L'enseignement et la connaissance correcte, orthodoxe, ne garantissent pas l'événement de conversion. Mais pour que la conversion soit une conversion au vrai Dieu, il faut une règle de foi. Vous voyez, donc, c'est paradoxal, il faut dire les deux. Le simple contenu, c'est comme ma définition de la théologie, tout à fait, début. Le fait que quelqu'un a dans la bouche une foi parfaitement orthodoxe ne garantit pas qu'il soit croyant. Un historien, un agnostique peut jouer cette partie-là. d'un bon journaliste, on attendrait quand même des affaires religieuses qu'il dit correctement les choses. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il croit. Et croire, c'est pas uniquement le croire un contenu, mais c'est accéder à un événement. Écoutez vraiment. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Voilà. Là, il y a quelque chose qui bascule. Mais, pour que ce soit le vrai Dieu, il faut, depuis le début de l'Église, on a une règle de foi. Si alors, voyez, ça c'est une règle, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Donc il y a des conditions d'accès, et le dogme, au fond, je dirais, c'est rien d'autre que la précision, au fur et à mesure, des conditions d'accès, règle de foi. Voilà. Les risques, j'espère que vous les avez situés maintenant, d'une absence d'articulation correcte de ces deux pôles. Alors, ils étaient bien articulés à l'origine, chez l'apôtre Paul. Donc, la tradition. Et donc, il faut préciser ce terme « tradition ». Jusqu'à maintenant, j'ai parlé identité chrétienne, tradition, c'est une question qu'on m'avait posée. J'ai parlé de processus kérigmatique. Voyez, il faut que je précise maintenant le terme tradition. Alors, le terme, d'abord, vous avez ici des mots grecs, translittérés, paradidomi, qui va donner paradosis, c'est le substantif. Paradidomi veut dire livré. Merveilleuse ambivalence du terme, livrer, transmettre, c'est le même mot. Livrer, et un livrer, un transmettre, suppose évidemment un recevoir. Un recevoir. Et on est dans le processus kérigmatique, c'est ça la tradition. Donc vous pouvez re-regarder le schéma 1 que je vous avais distribué. Alors, les textes clés, trois textes clés. Je commence par les plus connus, 1 Corinthiens 15, 1, 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Voyez, on est comme dans Romains 10, dans le processus. Que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés. Donc vous avez tous les termes comme dans Romains 10. Et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez, voyez, si tu dis dans ta bouche, alors, donc la condition, si vous le retenez tel que je vous ai voulu annoncer, autrement vous auriez cru en vain, je vous ai transmis, voilà le mot, je vous ai livré, paradidomi, je vous ai livré, en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même, comme dans le prologue de Dei Verbum, voilà. Christ, et maintenant vient le contenu, la forme, le contenu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux douze, etc., etc. Et moi, comme le dernier, l'avortant, mais c'est la grâce qui compte, voilà. Et pas le fait d'être le dernier. Voilà le premier texte. Le deuxième, vous le connaissez aussi, 1 Corinthiens 11, 23-26. Alors là, vous voyez, le lien entre livrer et transmettre devient plus net encore. En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai livré. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi, etc. » Donc voyez bien ici comment Paul, et on va le voir maintenant dans le troisième texte d'une manière encore beaucoup plus explicite, relie le processus de transmission et de livraison de l'évangile à la livraison originaire qui est celle du corps du Christ par le Seigneur lui-même. la scène. Ça, c'est l'origine du terme tradition. Voyez comme il est éloigné ce terme de ce qu'on appelle parfois tradition. Moi, je suis pour le progrès, toi, tu es pour la tradition. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ce genre d'ânerie? Voilà, des âneries. Voilà le cœur de la tradition. Voilà. Et qui est toujours le même, voilà. La permanente nouveauté, j'avais cité ce texte du pape François. La permanente nouveauté, voilà. Donc ça, c'est l'origine. Alors maintenant, le premier texte du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 3, 1 à 3, d'un texte très, c'est le premier que nous avons de l'apôtre Paul. Voilà, j'ai pas la date là en tête, je l'ai peut-être noté. Mais peu importe, c'est très, très, très tôt, ça revient sans doute dans les années 50, donc une vingtaine d'années après la mort du Seigneur. Donc, première aux Thessaloniciens, donc vous avez vos Bibles, bien sûr. Et là, il faut regarder les trois chapitres. Les trois chapitres, je vais arriver tout de suite. Voilà. Bon, parce qu'évidemment, il est magnifiquement structuré. Donc, je vais vous lire un peu selon ici, les versets 5 à 10 d'abord, qui nous donnent le processus global de la tradition, et on repère bien la forme d'ailleurs, bien la forme. En effet, notre annonce de l'Évangile, maintenant vous retrouverez les termes, vous serez un peu sensible à ça, hein, notre annonce de l'Évangile chez vous... n'a pas été seulement discours. Ah, ça c'est important, vous voyez, Paul prend tout de suite position par rapport à la forme. C'était pas seulement un discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint, dynamis, retenez bien ce terme, Esprit Saint, et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi que vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur, vous voyez, dans la relation. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur. Donc là, il y a un nouveau terme qu'on n'a pas encore rencontré, la mimesis, l'imitation. Vous voyez, le récepteur imite celui qui a annoncé. Comment il l'imite? En écoutant. Et en faisant finalement la même chose que lui, vous voyez, il y a une sorte de fécondation par imitation, par capillarité, peut-on dire presque, par contagion, voilà. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, comment? Accueillant, recevant la parole, donc réception, en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle... vous, pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus besoin d'en parler. Voyez comment le relais est pris, l'idée de relais. Car chacun raconte en parlant de nous, chacun raconte quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable. Et voyez, maintenant vient seulement le contenu. Donc pendant 5-6 versets, on a le processus qui est décrit de fécondation, d'accueil, d'annonce, de réception, et ensuite vient seulement le contenu. Alors, ça, c'est le parcours global de la tradition. Alors, regardons maintenant la réception. Le verset 1-5, voilà, nous le dit déjà. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, etc., etc. Accomplissement, accueil. Et vous avez alors, en 2-13, cette magnifique parole. Voici pourquoi... de notre côté, nous rendons sans cesse grâce à Dieu quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez accueilli non comme une parole d'homme, ce qu'elle est, parce que c'est Paul qui cause, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui est aussi à l'œuvre en vous les croyants. Alors ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui permet de reconnaître que dans le processus kérigmatique de transmission, ce que Paul est en train de raconter est non pas uniquement sa parole, mais la parole de Dieu? Le critère est ici. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire est déjà en l'œuvre en vous. L'Esprit Saint est déjà en l'œuvre en vous. Et donc, quand les deux se rencontrent, la parole externe et là, ce qui se passe à l'intérieur, alors c'est la reconnaissance que c'est la voix de Dieu qui retentit. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et alors maintenant, on va lire le milieu entre les deux textes. Et c'est là où vous allez voir, si vous voulez, je dirais la structure eucharistique de la tradition. Je l'appelle comme ça. Donc c'est les versets, l'acte de transmission lui-même, 2, 1 à 12. Vous-même le savez bien, frère, ce n'est pas en vain que vous nous avez accueillis, réception. Mais alors que nous venions de souffrir et d'être insultés à Philippe, comme vous le savez, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous prêcher. L'assurance, le terme repris par Vatican II, prologue, l'assurance. Qu'il fallait pour vous prêcher son évangile à travers bien des luttes. C'est que notre prédication ne repose pas négativement sur l'erreur. Elle ne s'inspire pas de motifs impurs. Elle n'a pas recours à la ruse, des stratagèmes, vous voyez, qu'on peut parfois développer pour convertir les autres. Mais Dieu, nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, vous voyez l'envoi, nous prêchons en conséquence. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Vous voyez, tout ça, ça concerne la forme, plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée de profit. Dieu en est témoin, et jamais nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous, ni chez d'autres, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtre du Christ. Donc même dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul ne revendique pas le titre d'apôtre du Christ et il ne se trouve pas d'ailleurs dans l'adresse tout à fait au début. Au contraire, et maintenant vient le positif, nous avons été au milieu de vous pleins de douceur. Et maintenant vient la magnifique comparaison parentale. D'abord avec la mère et ensuite avec le père. Paul, l'apôtre, comme une mère. Et ensuite, Paul, l'apôtre, comme un père. Il s'agit d'un vrai engendrement. Ce que j'appelle avec d'autres pastorales d'engendrement, s'appuie là-dessus, sur ce premier texte du Nouveau Testament. Au contraire, nous avons été au milieu de vous pleins de douceur, comme une mère réchauffe sur son sein les enfants qu'elle nourrit. Nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, didomi, donner, mais même notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Donc, vous voyez, Paul vient ici un autre Christ, au moins en désir ce qu'il aurait aimé faire. En transmettant l'évangile, il aurait aimé faire comme le Christ, livrer sa propre vie. Et là, c'est la mère qui intervient ici. Voilà. Vous vous rappelez, frère, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous sommes conduits envers vous, les croyants, de manière sainte, juste, irréprochable. Et vous le savez, traitant chacun de vous comme un père ses enfants, Nous vous avons exhorté, encouragé, adjuré de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà donc l'acte de transmission. Qu'est-ce que c'est transmettre l'évangile? C'est de faire comme le Christ, tout en sachant qu'on est dans une infinie distance par rapport à lui. Donc voyez, le critère qu'on trouve chez Saint-Irénée, c'est la sainteté, c'est le don, c'est la scène, c'est l'Eucharistie. C'est ça l'acte de tradition, l'acte de livraison qui suppose quelqu'un qui livre et quelqu'un qui reçoit. Et celui qui livre a d'abord reçu, c'est le Christ lui-même. Il a reçu, voilà. Il a reçu de son Père de donner sa vie. Voilà. De donner sa vie. Voilà la tradition. C'est ça le kérigme. Et voyez bien que ce n'est pas uniquement une affaire de discours ou d'orthodoxie du discours, même s'il faut, je leur ai dit, une règle de foi, et elle est présente ici aussi, le contenu, mais c'est un processus qui implique, voilà, les personnes. Alors les distinctions, on va terminer avant la pause, c'est à Yves Congar qu'on les doit. Donc la distinction entre le traditum et les tradentes. Vous voyez, dans le processus de tradition, il y a le traditum, c'est-à-dire le contenu de la tradition, ce qu'il faut transmettre. Avec l'idée, évidemment, plus largement, développement, définition. Et c'est le Père Congar qui dit, le premier millénaire est un millénaire essentiellement avec les grands 7, 8 conciles. Bon, je n'entre pas dans les détails, les problèmes œcuméniques à l'est de l'Empire. C'est le développement du contenu. Et ensuite, deuxième millénaire surtout, c'est la question des tradentes. Et là, on entre évidemment dans la question de la forme, prise de conscience. Mais la forme est présente avant, évidemment. L'Église et les personnes autorisées par le droit. Donc, apparaît ici la question de fond, de nouveau, et à laquelle j'avais promis d'apporter une solution. L'apôtre Paul relie intimement le traditum et ceux qui le transmettent. C'est son concept de tradition. Saint Irénée reprend le même concept de tradition et Vatican II, dans le chapitre 2, reprend le même concept de tradition. Nous allons le voir plus tard. Ce lieu d'articulation est le don de soi ou la sainteté de l'apôtre qui crédibilise ce qu'il transmet. Et voyez, on a déjà la deuxième partie du cours. Pourquoi y adhérer? La recevabilité, qu'est-ce que c'est? Qui crédibilise ce qu'il transmet? Et on touche ici, évidemment, à la limite du droit, parce que vous ne pouvez jamais commander ou réguler la sainteté. Ce n'est pas un objet de droit. Vous pouvez réguler l'envoi de quelqu'un. Qui peut être envoyé? Quelles sont les obligations, je dirais, objectives, mais le droit ne peut pas réguler la concordance d'une existence entre le contenu et sa manière d'être, d'apôtre. Le don de soi de l'apôtre renvoie au don de soi du Christ. Il s'est livré, lui, qui, lui, renvoie au don de soi de Dieu, à savoir à l'évangile de Dieu. Voyez, je vous ai beaucoup insisté sur le lien entre l'Évangile et Dieu. L'Évangile, mystère, révélation, l'autocommunication de Dieu, le don de soi de Dieu. Cette articulation intrinsèque entre le contenu et la forme de la tradition chrétienne doit être abordée en termes de style. C'est pour ça que j'ai écrit mon ouvrage, là, en 2 tomes, « Le christianisme comme style ». Vous avez la raison ici. C'est le style qui compte, c'est le comment. Pourquoi le pape François attire-t-il? Voilà. Ou d'autres papes, peu importe. Je parle du dernier. Voilà. Pourquoi? Ou tel apôtre, telle mère de famille, tel père. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, tout y est. Le style. Voyez, il y a une analogie ici. Le christianisme n'est pas uniquement discours, mais il est l'art aussi. Il a inventé un art. Un art de vivre. Une manière d'habiter le monde, comme dit... maintenant, ça ne me revient pas. Tout à l'heure, peu importe. Voilà. Une manière de vivre. Une manière d'être. Une cohérence. Une cohérence. La suite consiste maintenant à explorer cette intuition, appuyée sur une expérience très ferme, très ferme, celle de Jésus de Nazareth et celle de l'apôtre Paul et des autres, et de le faire dans notre contexte d'aujourd'hui postmoderne, déjà abordé à plusieurs reprises. Donc à la fin de la première partie, je vais revenir avec cet acquis à la césure entre Vatican I et Vatican II, et au concept d'auto-révélation, Dieu comme mystérieuse tradition de soi-même. Je crois qu'on peut dire ça maintenant. Dieu comme mystérieuse tradition de soi-même. Vous voyez, la bonté c'est, qui se diffuse, bonne aventure, la bonté qui se diffuse elle-même, qui se diffuse elle-même. Dieu n'est que bonté. Bonté, sagesse, etc., bien sûr. Voilà. Alors, l'approche que je vous propose maintenant, dans la troisième partie de ce chapitre 3, va partir des sujets de la foi. Un peu comme dans l'Épître aux Thessaloniciens. Les sujets de la foi. Donc, les croyants. Parmi lesquels se trouvent ce que Congar appelle les tradentes. Donc, ceux qui transmettent la foi. Alors, on va faire ici un lien, ça permet aussi un peu de relire pour vous, avec le chapitre 3 sur le paysage spirituel de notre époque. Vous vous rappelez peut-être, j'avais parlé à la fin de ce chapitre 3, de la partie d'introduction, j'avais parlé un peu des problèmes de socialisation de sens, la question du sens. Donc on va revenir à cette question maintenant, mais évidemment dans la perspective proprement théologique. La question du sens, de l'existence, et le problème dans nos sociétés multiculturelles, pluriculturelles, à la fois, je dirais, d'une certaine aphasie par rapport aux questions ultimes, et en même temps, si on trouve une réponse, c'est souvent tellement individualiste, on donne sens à son existence, que c'est très difficile de socialiser le sens. Voilà. Donc on va revenir à cette question. Alors, le premier point, on va aller très progressivement à la différenciation biblique des sujets de la foi. Donc finalement, qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament de ces sujets de la foi ? Ensuite, va venir une approche phénoménologique de la foi. On va intégrer ici un peu une réflexion de type philosophique. Et ensuite, la foi des sujets s'inscrit toujours dans un itinéraire. C'est là où on va retrouver, évidemment, je dirais, les évangiles, les itinéraires. Et ensuite, le point 4, je l'ai déjà annoncé, la dernière partie de ce chapitre, on va revenir à la césure entre Vatican I et Vatican II. Donc d'abord, la différenciation biblique des sujets de la foi. Alors jusqu'à maintenant, avec l'Épître aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, avec l'Épître aux Romains, on s'est centré sur une figure. Celle de l'apôtre, comme sujet de la foi. Les 12 et leurs successeurs, voilà. Maintenant, on va élargir le terrain à la figure de celui qu'on peut appeler quiconque. Quiconque. Parfois, on dit aussi le tout venant, mais on m'a dit que le tout venant, c'est peut-être un peu dépréciatif. Donc, quiconque. Et vous rappelez dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, quiconque vous en demande raison, faire l'apologie devant quiconque. Donc, pas uniquement les apôtres devant d'autres apôtres ou des clercs devant les laïcs, mais quiconque. Alors, donc, c'est cette figure-là qu'on va retrouver maintenant. Et on va les retrouver avec les évangiles. Les évangiles. Et j'introduis ici, pour la première fois, une définition du genre littéraire évangile. Vous voyez, jusqu'à maintenant, mon parcours a été très largement paulinien. Paulinien, plutôt du côté des lettres de saint Paul. En expliquant le terme évangile, voyez à la page 16, le terme de triangle, on a vu évidemment l'apôtre Paul, mais on a vu aussi Marc. Et vous voyez, dans le quatrième point, à la page 16, B4, j'avais déjà parlé de la forme de l'évangile et j'avais renvoyé au chapitre que nous sommes en train de traiter. Alors, je vais vous lire cette définition que je propose. Les évangiles sont des récits de conversion, le mot conversion étant absolument central dès le départ. L'annonce de l'évangile, le royaume s'est approché, le kairos, le moment favorable est venu, donc un événement qui se produit. Convertissez-vous, Dieu s'est approché, convertissez-vous. Les évangiles sont des récits de conversion. Et maintenant, vient deux parties dans la définition, qui ne mettent pas seulement en scène l'itinéraire de Jésus du début jusqu'à la fin. Ça, c'est classique, si je puis dire. C'est les mystères de la vie de Jésus, par exemple chez saint Thomas. C'est absolument remarquable. Dans la troisième partie de la Somme, je vous en ai parlé, vous avez dans la Christologie de saint Thomas, voilà, une reprise de l'ensemble des mystères de la vie de Jésus. Dans les exercices spirituels d'Ignace, vous avez les mystères de la vie de Jésus. Donc, il y a les récits, le récit de la vie de Jésus. Donc, les évangiles mettent en scène l'itinéraire de Jésus du début jusqu'à la fin. Alors, la fin, c'est clair. C'est la mort sur la croix et c'est les récits d'apparition. Le début, c'est moins clair. Voilà. Chez Marc, ça commence avec Jean. Chez Matthieu et Jean, on remonte jusqu'à la conception. Chez Matthieu et Luc, et chez Jean, on remonte jusqu'au Logos, voilà, le prologue. Donc ça, c'est la première partie, si vous voulez, ce que j'appelle aussi la condition nécessaire du récit évangélique. Le héros principal, littérairement, c'est Jésus dont on raconte l'itinéraire du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que les exégètes parlent d'ailleurs maintenant de bioi, vie de Jésus, bios. Le genre littéraire évangile s'est forgé en débat avec des bioi, des vies de grands personnages déjà existants. Et arrive évidemment ici une particularité. Alors, la deuxième partie de la définition. Donc, ils ne mettent pas seulement en scène l'itinéraire de Jésus, du début jusqu'à la fin, mais en même temps, ce qu'il devient pour et en ceux et celles dont l'itinéraire croise le sien. Ah, ce point est tout à fait décisif. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement l'itinéraire de Jésus qui est en jeu, mais c'est l'itinéraire de tous ceux et de toutes celles qui croisent sa route, qui croisent son chemin. Et c'est les deux choses qui nous sont racontées en même temps, de manière intrinsèquement liée. Donc, il y a une relation d'emblée au cœur même du texte, du genre littéraire. Alors, Pourquoi en et pour? J'ai mis en et pour des raisons euphoniques, n'est-ce pas? Logiquement, il faudrait dire pour ceux et celles dont l'itinéraire croise le sien et en. En, c'est-à-dire, au moment de la scène, qu'est-ce qui se passe? Personne peut le suivre au moment de la passion jusqu'au bout. Tout le monde prend la tangente, pour le dire un peu vulgairement, et il reste évidemment quelques femmes qui regardent de loin. De loin, nous dit Marc, Matthieu aussi. Voilà. Mais ils suivent d'une autre manière, parce que la scène fait passer Jésus en eux. Ce que Paul va enregistrer à sa manière, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, du début jusqu'à la fin, mais en même temps, ce qu'il devient pour ceux et en ceux dont l'itinéraire croise le sien. Voilà l'itinéraire, la définition de l'itinéraire, du genre littéraire évangile. On va revenir à cette histoire de la scène qui est décisive. Parce que, pourquoi c'est décisif? Je vais quand même tout de suite le dire. Parce qu'évidemment, je dirais, tout le monde l'a abandonné. Il y a même, parmi les 12, il y en a un qui l'a livré. Qui l'a livré. Un des 12. Voilà. Judas. Voilà. Donc, personne peut suivre le Christ jusqu'au bout. Personne. Donc ça, c'est la première reconnaissance, qui d'une certaine manière deviendra la reconnaissance de notre péché. De notre péché. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout, comme lui. Et du coup, il fait le chemin, mais il fait le chemin, le passage, avec nous. Et ça, c'est la scène. Mon corps pour vous, pour vous, voilà. Et donc du coup, quand nous annonçons l'évangile à sa suite, nous l'annonçons en son nom, alors ça c'est la théologie lucanienne, en son nom, voilà, en son nom, pas en notre nom, mais en son nom, donc envoyé par lui, mais en l'annonçant, il est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui est en moi. Voilà. Voilà donc la signification du « en » et des « pour ». Alors, si vous regardez ça, on peut différencier trois figures de foi ici. Il y a d'abord ceux et celles qui croisent son chemin sans devenir ses disciples. Et c'est la majorité. Ceux et celles qui croisent son chemin et qui deviennent ses disciples. Donc, quelques figures. Voilà. Ça commence tout de suite. Dans les récits, et chaque fois une parole décisive de Jésus, « Mon fils, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. » Avec la question « Quelle est cette foi ? » Que signifie ici le terme « foi » que je mets ici entre guillemets pour quelqu'un qui ne suit pas Jésus, le Nazaréen et ne devient pas son disciple ? La femme hémorroïde, par exemple. L'homme, je dirais, le toit qui s'ouvre, porté par quatre. Il descend, voilà. Mon fils, c'est ta foi qui t'a sauvé, voilà. Tes péchés te sont pardonnés, etc. Il appelle mon fils. Donc il y a un engendrement ici, comme chez Paul, mais le personnage disparaît. C'est pas un disciple. Alors est-ce qu'il faut l'appeler sympathisant ou quel nom donner? Vous voyez, il y a tout un débat exégétique à l'heure actuelle là-dessus. Première figure. Ensuite, il y a ceux qui viennent, ses disciples. Et là, vous avez deux types de récits d'appel. Donc, Marc 1, 16, 20, parallèle, c'est-à-dire, c'est des récits d'appel de disciples, suis-moi. Il n'y a pas de négociation possible, c'est un acte de création. Ils abandonnent tout, père, etc., les instruments de pêche, et hop, ils suivent. Ça, c'est le premier. C'est Jésus qui prend l'initiative. Et il y a l'autre figure chez Jean. Hein. Rabbi, où demeures-tu? Venez voir. Voyez, là, c'est les futurs disciples qui prennent l'initiative. C'est magnifique. On nous a gardé les deux postures ici. Hein. Voilà, ça c'est la deuxième figure, et va s'établir alors évidemment une relation significative avec Jésus lui-même, ce qui n'est pas le cas dans le premier. Dans le premier cas, c'est épisodique, une relation, et hop, ensuite, ils disparaissent de la surface. Mais alors les disciples suivent l'ensemble de l'itinéraire. Relation significative entre le maître et le disciple. Voilà. Il s'agit, pour parler ici le langage paulinien, de le connaître et de s'identifier à lui. Avec toutes les formules, le disciple n'est pas plus grand que le maître, etc., etc. Jean va même parler, on va y revenir, de l'amitié ici, de l'amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, mes amis. Relation significative. Et ensuite, vous voyez, il y a la figure des 12. Il appelle ceux qu'il voulait. Il en établit 12, il institua 12 pour, donc, vous voyez, une finalisation extrêmement précise, une fonction précise, pour être avec lui, voilà, avec lui, et pour les envoyer prêcher avec autorité, de chasser des démons, etc. Et là, il faut tout de suite dire, évidemment, la figure apostolique est pluriel selon le Nouveau Testament. Donc il y a les 12, la symbolique des 12 tribus, mais chez Luc, vous avez déjà une sorte d'élargissement qu'on n'a pas chez Matthieu ni chez Marc. Il utilise le terme apostolos, les apôtres, apôtres, et il y a les 72, vous voyez, il y a les 7. Donc il y a une sorte de pluralisation des figures, jusqu'à ce qu'on arrive, évidemment, dans, chez Paul, même, je dirais, à des différenciations. Premièrement, les apôtres, deuxièmement, les évangélistes, etc., etc. Donc, cette figure est très plastique. Il y a les 12, et avec le problème de la succession qui se pose ensuite. Voilà les 3 figures. Alors, quand on regarde maintenant l'histoire, il y a évidemment le risque énorme qu'on oublie la première figure, le quiconque. Et ça, c'est au fond l'histoire de la chrétienté. La chrétienté, à partir du IVe siècle, si vous voulez, je dirais, quand l'Empire devient chrétien, ne connaît plus la figure du quiconque. Le juif va se trouver dans le ghetto, après on aura les musulmans, on aura à partir du XVIIIe siècle quelques libres penseurs, et ensuite progressivement, je vous rappelle le texte de Durkheim, sorti de la chrétienté, et aujourd'hui on est dans une situation où quiconque, c'est plutôt la majorité. D'où l'intérêt de lire les récits évangéliques dans cette perspective-là. Rencontrer quiconque, ce que fait Jésus de Nazareth, sans programme, sans stratégie. Voilà. Donc, on a distingué, au fond, je dirais, le disciple et l'apôtre est devenu le laïc et le clerc. Jusqu'à Vatican II, préparé, avant, quand tout un coup, on a vu naître un décret qui s'appelle l'apostolat des laïcs. Tiens. Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, a forgé pour la première fois ce terme disciple-apôtre, en mettant un tiret entre les deux, qui montre bien qu'on ne peut pas être disciple du Christ pour soi, mais qu'on va rapidement arriver dans le kérigmatique, dans l'apostolique. Donc vous voyez, le terme apostolique se met ici à bouger. C'est à la fois des figures spécifiques, les 12, les 72, etc., selon les différentes théologies du Nouveau Testament, des figures, et finalement chaque disciple est appelé à devenir apôtre, disciple, apôtre. Les clercs deviennent les seuls sujets porteurs de l'identité comme tradition, les tradentes. Dans la situation actuelle, il faut se poser des questions. L'émergence de la première figure de la foi, en lien avec notre paysage spirituel, décrit dans le chapitre 3 de la première partie, quelle est la foi de quiconque? Donc on va maintenant se poser cette question. Quelle est la foi de quiconque? Et comment, d'une certaine manière, si on prend au sérieux, ça sera le point C, passer de la foi de quiconque à la foi de disciple et finalement à la foi de l'apôtre. C'est toujours la même foi, mais ce n'est pas la même figure de la foi. Et il y a des seuils décisifs ici, des seuils décisifs entre quiconque et la foi du disciple, c'est le baptême. C'est le baptême qui est le passage. Alors, je commence donc avec une approche phénoménologique du croire. Et on peut se référer ici d'abord à une étymologie que nous devons à un grand anthropologue français, Émile Benveniste, dans le premier volume du vocabulaire des institutions indo-européennes. Premier volume, Économie, parenté, société. Ce texte est tellement important que je vous l'ai reproduit en entier dans votre dossier à la page 88-92. Et alors, Benveniste établit cette étymologie entre croyance et créance. Croyance et créance, c'est le même mot. Donc croire, croyance et créance. Alors avec créance, c'est-à-dire c'est des latins, c'est l'hellénisme latin qui établit cette équivalence. Il le montre entre croyance et créance, parce que dans la croyance, il y a évidemment un faire crédit. Voyez tous ces mots, faire crédit. On est dans un régime économique en même temps. Fiduciaire, comme on dit aussi. C'est toute la fragilité du système économique dans lequel on est. Bancaire, redoublé, et finalement financier. Et on voit bien, n'est-ce pas, je dirais, il y a la météorologie et il y a la bourse. Et ça monte, ça descend, comme le temps, et c'est une affaire de confiance. Faire crédit. Et ça donc, depuis les premiers siècles de notre ère, c'est les latins qui ont établi cela. Créance, croyance. Donc le problème du crédit, du faire crédit. Et alors, si vous regardez cet article, on ne va pas le faire maintenant, mais je vais vous exposer quand même très brièvement un peu l'essentiel. Le propre de la culture, de la civilisation indo-européenne, c'est sa racine en Inde. Indo-européenne. C'est de là, de la Rig Veda, pour le faire bref, de toute la tradition culturelle et des grands textes de l'Inde, que viennent, au fond, je dirais, les grandes décisions de vocabulaire qui vont déterminer toute la civilisation occidentale, indo-européenne. Et donc, c'est l'histoire ici du crède. Crède des Sraddha. Hein, donc, vous allez retrouver ça, je ne vais pas mettre ça au tableau pour ne pas perdre du temps. Le crède. Vous voyez, on entend déjà credere derrière le crède, donc c'est le terme du sanskrit, la langue indienne, le sanskrit, n'est-ce pas? Le crede, le crède, qu'est-ce que c'est? Alors on a pensé pendant un temps que c'était cœur, crede, cœur. Vous voyez, on n'est pas très loin, le cœur, le corps en latin, C-O-R. Et on n'est pas très loin de la confiance, du lieu vital de la confiance de l'être humain. Mais ça veut dire gage, gage, enjeu. Donc il s'agit au fond, le crède, c'est engager quelque chose de soi-même, un gage, et dans un rapport d'échange avec les divinités. Avec les divinités et avec la divinité centrale qui est Indra. Et vous voyez, il y a cette sorte, dans cette civilisation indienne, une sorte de rapport entre les combats que vivent les humains et les combats à un autre niveau, mythique dirions-nous, entre les divinités. Et les deux mondes sont intimement liés, et comment Indra, la déesse principale, va-t-elle gagner, remporter la victoire, parce que les hommes mettent leur gage, leur crède en elle. Les hommes et les femmes mettent leur crède, leur enjeu, ils misent sur elle. Et elle va gagner le combat et elle va rétribuer, évidemment, les êtres humains de sa propre victoire, nourriture, etc. Donc vous voyez, on est dans cette civilisation où le sacré et le profane ne se distinguent pas, si je puis dire. Et c'est là où émerge le vocabulaire du crède, de la mise en jeu de soi-même, mais dans un processus d'échange, dans un processus d'échange. Je donne quelque chose de moi-même, je fais confiance et je vais recevoir quelque chose. Et on verra ensuite, précisément dans la tradition biblique, comment on va sortir de cet échange du do ut des, je te donne pour que tu me donnes. Et où donc le croire, le faire crédit, vient quelque chose de gratuit, de radicalement gratuit. Alors on est donc encore ici dans ce processus d'échange. Donc je livre quelque chose en espérant que je vais le récupérer sous une autre forme. C'est exactement la forme de notre économie monétaire. Voilà. Je donne quelque chose pour le recevoir. Et les intermédiaires, évidemment, il y a des pièces de monnaie, il y a des banques et finalement tout un marché financier, mais on sort pas finalement de cette confiance ultime. Un acte de confiance. Donc, il s'agit maintenant, à partir de cette observation, de revenir à l'arrière-plan anthropologique du vocabulaire créance-croyance. Créance-croyance. Premier point, au cœur de l'être humain se vit une expérience de vulnérabilité fondamentale, qu'on peut formuler d'une manière différente. L'expérience d'une ouverture, d'une blessure, le cordon ombilical, n'est-ce pas, l'ombilical qui est le symbole de cela, que seule une confiance originaire permet de gérer. Ça, c'est le point de départ. C'est sans doute, je dirais, une vulnérabilité, comme on dirait aujourd'hui, que nous partageons avec les mammifères supérieurs. Une vulnérabilité radicale. Alors, il y a deux manifestations de cela. Premièrement, le petit homme doit passer par une seconde naissance, ce qui n'est pas le cas des mammifères supérieurs. Les mammifères supérieurs, quand ils sortent du sein maternel, sont très très rapidement capables de gérer leur existence. Il n'y a pas d'éducation. Il y a éventuellement du dressage, n'est-ce pas? Le petit homme doit passer par une seconde naissance, c'est-à-dire l'entrée dans sa propre culture, ce qu'on appelle aussi endoculturation. Vous rappelez les trois termes? Acculturation, inculturation de l'évangile, endoculturation. Je vous invite à revenir au premier chapitre, je vous ai expliqué ça de cette partie. L'expérience d'apprentissage qui passe par la relation parentale, par la relation, ou par ses substituts, l'entrée dans le langage, etc. Il y a donc, au point de départ, une indétermination initiale, même si le pourcentage des gènes qui nous différencient des mammifères supérieurs est relativement restreint, mais ces quelques pourcents sont absolument décisifs qui font l'indétermination du petit homme et qu'il doit passer par une éducation. C'est l'origine de la culture. L'homme ne naît pas né à lui-même que s'il fait crédit à la culture qui l'environne. Et en premier lieu, au lien parental. C'est le début d'un processus de formation, c'est-à-dire formation au sens de donner forme à son existence. Et ça, c'est la culture. La culture. Donc ça, c'est le premier signe, si vous voulez, je dis, la manière humaine de gérer, entre guillemets, cette vulnérabilité radicale, mais qui reste fondamentale et qui présuppose donc toujours une confiance originaire, un acte de confiance initiale, un crède, comme on dit dans la tradition indo-européenne. Un faire crédit. Au commencement, il y a un faire crédit à la vie. Alors, le deuxième cas que je donne ici, au deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle la naissance du contrat social. Vous voyez, c'est toutes les réflexions à partir du XVIIe, XVIIIe siècle sur la naissance même de la société, hein, chez Rousseau, chez d'autres, etc. C'est-à-dire le transfert, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'être humain produit aussi la violence. Quand je me sens attaqué, je me défends. Et donc la violence n'est pas au commencement, la violence est second par rapport à la confiance originaire. Et donc la naissance de la société, basée sur le contrat social, suppose un transfert de la violence de l'individu. Je ne me fais pas justice à moi-même, je ne me défends pas moi-même, mais c'est à la société de me défendre. Le droit, etc., etc. Donc là, on voit de nouveau, je dirais, au fond, cette manière culturelle et étatique, sociale, de gérer cette vulnérabilité fondamentale. Et on voit bien, quand tout d'un coup la confiance disparaît, arrive éventuellement la révolution, et on est très vite dans la guerre civile. Voilà. Le retour au chaos initial, la disparition de la confiance. Voilà. Alors, la vulnérabilité humaine, je continue un peu dans mon analyse phénoménologique, et le surgissement de la foi. Il y a ici, si vous voulez, trois niveaux de profondeur à distinguer, quand on veut parler maintenant de foi, au sens le plus élémentaire du terme, à partir de cette donnée anthropologique fondamentale qui est à l'origine de la culture. Il y a d'abord, si vous voulez, l'expérience de vulnérabilité ou d'ouverture au monde. C'est la première chose, évidemment. C'est la base la plus fondamentale. C'est la première sortie du sein maternel avec le cri primal, comme on dit parfois, l'ouverture à la lumière, et ensuite l'entrée menée par les parents, marcher, parler, entrer, l'ouverture du monde. Et ça suppose évidemment une confiance jusqu'à ce que l'enfant lâche les mains de ses parents et marche sur ses propres pieds et fait confiance, voilà, à cette ouverture inouïe qu'est le monde. Voilà, l'ouverture au monde. Et apparaît rapidement ici la question du sens. Vous connaissez tous des enfants, voyez, qui commencent tout d'un coup à poser des questions. C'est absolument magnifique, cette phase-là. Donc, c'est en partie un jeu. Mais en partie, c'est vraiment très sérieux, c'est la question du sens. Pourquoi ceci et cela? La question du sens, et la question du sens vient avec un phénomène tout à fait étonnant dans l'existence humaine, c'est-à-dire sa capacité que n'a pas l'animal d'anticiper la totalité de l'existence. Le tout. Voyez, je vois mourir la tante à côté de moi. La grand-mère, le grand-père, voilà, apparaît tout d'un coup le tout de l'existence. Mais comment sortent les bébés, etc. Vous voyez, c'est l'anticipation, la notion de l'anticipation. On anticipe ce qu'on ne peut pas anticiper, le tout de l'existence, le tout du monde. Voilà. C'est la phase métaphysique, voilà. Et apparaît alors la question que Leibniz, au XVIIIe siècle, a été le premier à formaliser pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose et non pas rien. Pourquoi il y a plutôt quelque chose et pourquoi rien. Vous voyez, ça c'est le deuxième niveau, la question du pourquoi. Pourquoi, voilà. Et il y a le plutôt dans cette question qui est magnifique. Le plutôt, ça veut dire ce qui existe a plus de poids que ce qui n'existe pas. J'existe de toute façon. Voilà. Alors ensuite vient le troisième niveau, l'expérience de finitude vécue sous ses différentes modalités. Donc là, on entre dans le pluriel, radical. Alors comment vivre cela? Voyez, la contingence, cette sorte de menace par le rien, par la mort. Je n'ai pas choisi d'exister. Je n'ai pas choisi d'exister. J'existe. Voilà. Pourquoi? Voilà. Quel est le sens de ça? Et alors, il y a les modalités multiples. Vous voyez, il y a d'abord une première modalité que j'appelle modalité idéologique. On a une réponse qui précède la question. Donc, au fond, la question du sens ne peut pas réellement émerger dans la radicalité parce qu'on a déjà la réponse idéologique. Et la tradition chrétienne peut être transmise comme une idéologie. N'oublions pas ça. Voyez, quand on objective tellement le contenu et la forme, l'événement n'est plus présent, on est dans la transmission d'une idéologie, il n'y a plus de questions. Voyez, c'est le type de catéchisme où les réponses précèdent les questions. C'est tout à fait ça. Donc on peut aussi vivre à l'opposé, on peut vivre la question du sens, sa propre contingence, sous la forme de l'indifférence. Ça peut aller loin, n'est-ce pas, hein, l'indifférence. Voilà. Le divertissement, dirait Pascal. Le divertissement. Je me divertis, je veux oublier cette question et je fais tout pour l'oublier. Ou je suis indifférent. Ça ne me concerne pas. Voilà. J'ai trop d'autres choses à faire. Voilà. Ça existe, hein? Et l'indifférence par rapport à la transmission chrétienne ne veut pas nécessairement dire l'indifférence par rapport à la question du sens. Vous voyez, il faut bien entendre ici, distinguer. Alors la troisième, c'est l'indécision. Oui, je suis atteint par la question, mais je ne me décide pas. Ce qu'on appelle parfois l'agnosticisme. Donc, vous voyez, vous avez les trois niveaux de profondeur. Il y a toujours, au point de départ, naissance et mort, vulnérabilité, ouverture. Il y a la phase de question, pourquoi, et qu'on peut radicaliser, ce que fait la philosophie. Et il y a les modalités, les manières de vivre avec cette question. De vivre avec cette question. Et du coup, ça me conduit vers la question, au fond, je dirais, de deux modalités qu'il faut maintenant préciser. C'est la modalité de l'angoisse et la modalité de la foi. Voyez, maintenant, on arrive. La modalité de l'angoisse. Alors ça, c'est une modalité, je pense ici à Kierkegaard, on peut penser à beaucoup d'autres auteurs, évidemment, qui est hautement spirituelle. Mais le passage à la foi implique ici, voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est toujours la première chose que le Christ qui se manifeste dit. N'ayez pas peur. Voilà. La paix soit avec vous. Donc là, si vous voulez, apparaît un passage décisif. Le passage à la fois sous la modalité, j'ajoute ici de la gratitude. On peut vivre sa contingence sous la modalité de l'angoisse et on peut vivre sa contingence sous la modalité de la gratitude. Vous voyez, j'évite pour le moment au maximum les mots chrétiens encore ici. Gratitude. C'est-à-dire, finalement, je me demande s'il y a une vie humaine vraiment digne de ce nom ou sans gratitude. Quelque part, l'acte même, je dirais, de recevoir sa propre existence, d'en être plus ou moins content, mais quand même il y a un contentement, dit Leibniz, c'est son terme, un contentement, une gratitude, voilà, c'est peut-être la modalité la plus élémentaire d'un acte de foi. Voilà, ici. Voilà, de toute façon, il y a épreuve parce qu'il y a contingence. Il y a épreuve. Il n'y a pas de vie humaine sans traverser de cette contingence. Je n'ai pas choisi de naître. Et le travail d'une existence, d'un bout à l'autre, c'est finalement de se réconcilier avec le fait d'exister. Se réconcilier avec le fait d'exister. Et c'est cette réconciliation que la tradition chrétienne appellera finalement amour de soi, qui est la tâche véritable de toute existence humaine. C'est ça le sens. Et on peut la vivre sous la forme de l'angoisse ou finalement sous une gratitude. Qu'elle soit chrétienne ou non, ce n'est pas encore la question. Et donc, il y a au fond dans l'existence humaine un appel pour tous. Voyez, tout existant. C'est pour ça que le Concile Vatican II parle de la vocation humaine. J'ai longuement développé ça dans mon petit ouvrage. Vous avez dit vocation. Vous avez dit vocation. Vatican II, dans Gaudium et Spes, utilise ce terme vocation humaine. C'est-à-dire, en tout être humain, au cœur de sa vulnérabilité, retentit un appel qui n'est pas nécessairement l'appel à la foi chrétienne. C'est l'appel de sortir de l'angoisse, et de recevoir son existence avec gratitude, quelque part. La naissance d'une certaine joie, d'un contentement, voilà. Un appel pour tous. Alors du coup, nous aboutissons maintenant vers une première définition du croire. Alors, je vous rappelle que lors de la première séance, à la page 8 de votre polycopier, je vous ai déjà donné une définition du croire. L'expérience du sujet croyant, page 8. Le sujet croyant s'éprouve fondé sur un autre, celui qu'il appelle Dieu. Donc ça, c'était déjà une définition biblique. Alors maintenant, une première définition. Je me confie au mystère de l'existence qui se trouve au cœur de ma vulnérabilité, croyant que je ne serai pas perdant. Vous voyez, ça c'est une définition très élémentaire du croire, au sens humain du terme. Alors j'ai dit, il n'y a pas d'existence humaine digne de ce nom sans un tel croire. Sans un tel croire, lié à la vulnérabilité. Je me confie, vous avez plusieurs éléments, donc je me confie, donc c'est le crède, le crédit, je fais crédit au mystère de l'existence. Vous voyez, je mets mystère ici entre guillemets, j'aurais pu mettre aussi énigme d'une certaine manière, c'est énigmatique, à l'énigme de l'existence qui se trouve au cœur de ma vulnérabilité, pas ailleurs, c'est ma vulnérabilité qui est cette énigme, croyant que je ne serai pas perdant. Vous voyez, c'est cette sorte d'anticipation, de cette anticipation d'un tout. Alors, il y a ici une possibilité qui s'ouvre et qui va nous conduire vers la foi chrétienne ou biblique. Une possible inversion de cette définition qualifiant la foi. Donc c'est ça le passage. Le passage, le petit passage. C'est le mystère qui m'attire à lui. Voilà, vous voyez l'inversion, hein? Ce n'est plus le « je » qui est au point de départ. C'est ça le seuil, au fond, que la Bible nous fait faire. C'est le mystère qui est au premier ici. C'est le mystère qui m'attire à lui et qui crée en moi la confiance, me permettant ainsi de dire véritablement « je » au cœur de ma vulnérabilité. Voilà. Là, je passe d'une phénoménologie du croire, valable pour tout être humain, à un croire au sens biblique du terme. C'est cette inversion. On va évidemment y revenir maintenant dans le point C, à cette inversion. Donc c'est au cœur de l'être humain, de son anthropologie. Vous voyez, la foi n'est pas, si vous voulez, quelque chose qui vient d'une manière extrinsèque, comme on dit aussi, de l'extérieur, ça serait très mal honorer Dieu comme créateur. Rappelez-vous le prologue, je l'ai cité dès la première séance. Il est venu dans ce qui lui appartenait, mais les siens ne l'ont pas reçu. Donc quand Dieu vient, il y est déjà. Quand la foi, au sens biblique du terme, s'enracine en moi, elle y est déjà. Elle y est déjà. Mais il y a cette inversion qui se produit ici, qui est fondamentale. Dieu a la première parole désormais. Voilà. Alors, l'itinéraire spirituel de l'identité croyante. Vous comprenez maintenant la construction de mon propos, je l'espère. On va donc maintenant revenir à partir de ce moment-là, mais non, ce sera dans 15 jours. Le 11, il n'y a pas de cours. On va revenir au récit évangélique qui implique une relation. Je l'ai fortement dit au début de notre deuxième heure. Proposition et réception. Il y a la proposition évangélique par Jésus et les sujets sont impliqués dans le récit. Mais ce qui est remarquable dans les récits évangéliques, donc les deux parties de la définition, l'itinéraire de Jésus et ce qu'il devient pour et en ceux et celles qui croisent son chemin. Donc vous voyez la relation. Donc, pour ceux et en ceux, qui sont ceux-là maintenant? Donc on va commencer avec quiconque, c'est-à-dire on va repartir avec quiconque et avec notre phénoménologie du croire. Et donc on va retrouver le quiconque ici, ta foi t'a sauvé. On va préciser quelle est cette foi élémentaire de la femme et Moïse, etc. et de tous les autres. Ensuite, qu'est-ce que c'est le disciple? Voyez, c'est là où va apparaître l'inversion. L'inversion, c'est tout d'un coup le mystère qui prend la première place, le disciple. Et ensuite, le devenir apôtre de Jésus-Christ. Et vous avez un petit croquis à la page 23 qui résume l'ensemble de ce mouvement génétique. Génétique. Pourquoi ce mouvement génétique est tellement important aujourd'hui? C'est le mouvement génétique du décret sur la mission du Concile Vatican II dans son deuxième chapitre, parce que c'est l'ordre de la mission. C'est l'ordre de la mission. Rencontrer quiconque, des disciples, des apôtres précisément pour qu'il y ait des disciples, apôtres et des disciples apôtres en relation avec quiconque. Vous voyez, c'est ce schéma circulaire qui est le schéma des récits évangéliques. Voilà, donc il nous reste encore un petit développement. Donc la semaine après le 11, on va terminer donc rapidement ce chapitre 3 et je vous laisserai sûrement un peu de temps pour des questions avant qu'on engage la deuxième partie du cours. Mais si vous voulez m'envoyer des questions ou les déposer dans le casier, vous pouvez toujours le faire. Bonne semaine.